en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, merci de m'accueillir. C'est l'histoire de la grande cuisine française dans le monde. Je dis grande cuisine parce que c'est mieux que cuisine française. Et au risque de vous surprendre, je voudrais commencer par vous dire un mot de la cuisine péruvienne. Curieuse façon, me direz-vous, d'aborder la question de la cuisine française dans le monde. Certes, nous allons faire un petit détour, mais ce petit détour en vaut la peine. Début septembre, j'étais donc à Lima pour prendre la parole pour l'ouverture d'un grand événement national et international qui s'appelle Mistour. C'était la 6e édition de la rencontre, et cette rencontre a pris une dimension inégalée en Amérique du Sud et dans le monde. Des dizaines de cuisiniers du Pérou, de l'Amérique latine et du reste du monde se sont retrouvés là pendant 4 jours. Un grand marché d'une centaine de producteurs, agriculteurs, maraîchers, éleveurs, a reçu la visite de dizaines de milliers de curieux. La cheville ouvrière de cet événement s'appelle Gaston Acurio. Il possède une 30aine de restaurants, dont la majorité se trouve bien sûr en Amérique du Sud, en Amérique latine en particulier, mais aussi aux États-Unis, et il commence à s'installer sérieusement en Europe en commençant par Londres et Madrid. Je dois juste mentionner que cet homme a appris la cuisine à Paris. Cette anecdote pour vous dire 2 choses. D'abord, probablement, vous ne connaissez pas Mistour, ni Gaston Acurio, ni la nouvelle cuisine andine qu'il a inventée et dont il se fait le porte-parole et le héros. Ensuite, et plus sérieusement, je raconte cette anecdote pour vous donner une idée de la scène culinaire mondiale. La cuisine française dans le monde, certes, mais je vais y venir. Mais parlons un peu du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire totalement globalisé, je dirais mondialisé, très multipolaire et complètement communicant. Des anecdotes comme celle de Mistour, je pourrais vous en raconter beaucoup d'autres. Connaissez-vous MAD ? Encore un grand événement mondial de la cuisine d'aujourd'hui. Il se tient tous les ans au Danemark, en août. J'y ai trouvé cet été des collègues de Chine, des États-Unis, d'Europe que je connais bien, et de nombreux journalistes de partout dans le monde. Je vous donne ces 2 exemples, l'un péruvien, l'autre danois, pour illustrer un fait majeur de la scène culinaire mondiale d'aujourd'hui. Comme je vous le disais à l'instant, il est multipolaire. Vous n'auriez probablement jamais pensé, ni au Pérou, ni au Danemark, comme étant aujourd'hui des foyers actifs de la cuisine contemporaine. Eh bien si, le Pérou, le Danemark, le Brésil et bien d'autres sont à présent sur la carte du monde de la cuisine, et je peux vous garantir qu'ils ne se laissent pas impressionner par les vieux pays. Voici donc en quelques mots le paysage dans lequel il faut situer la cuisine française. Un contexte incroyablement global, dynamique, innovant et concurrentiel. Mais vous imaginez bien que je ne trace pas ce portrait du monde pour en conclure la fin de l'histoire de la cuisine française. Bien au contraire. Après ce détour géographique, faisons à présent un petit détour historique. Rassurez-vous, je ne vous infligerai pas un développement historique remontant la nuit des temps. Je suis incapable, d'excellents auteurs l'ont fait mieux que moi, mieux que je ne saurais le faire. Et je voudrais juste souligner un point qui me semble important pour la suite. La cuisine française a une longue ouverture et une longue pratique de l'ouverture au monde. Il faut tout de même signaler ici un grand précurseur, Auguste Escoffier, à la charnière du 19e et du 20e siècle. Il est né en 1846 et mort en 1935. Escoffier a inventé et surtout codifié les bases du métier de cuisinier tel que nous le pratiquons aujourd'hui partout dans le monde. Je ne parle pas seulement de recettes, encore qu'on lui attribue quelques belles trouvailles comme la pêche melba. Je pense aux extraordinaires innovations qu'il a apportées dans la pratique de notre métier. C'est lui qui a inventé, par exemple, la notion de brigade, c'est-à-dire l'organisation des cuisiniers en équipe spécialisée qui permet de rationaliser la préparation des plats. Et surtout, Escoffier a voyagé. Le monde de l'époque était plus petit, bien sûr. Dans les années 1880, il se partage entre Paris, Cannes, Monte-Carlo, Lucerne. Puis, dans les années 1890, à la suite de sa rencontre avec César Ritz, il va à Londres. Son ouverture sur le monde le conduit même à mettre sur pied une sorte de pari un peu fou, les dîners d'Épicure, qui consiste à organiser le même repas, le même jour, dans différentes villes du monde pour faire rayonner la cuisine française. Hélas, l'opération commence en 1912, mais ne dure que 2 ans. Le dernier dîner a lieu, mais il réunit tout de même 10 000 personnes dans 147 villes. Je me sens personnellement, en tant que cuisinier français, très redevable à Escoffier pour la volonté tenace dont il a fait preuve pour accorder la cuisine à son époque et faire apprécier la cuisine française. Mais j'ai promis que ce détour historique ne serait pas trop long, dont je saute quelques décennies, et je vous propose de vous transporter au début des années 1970. Ce sont les années de mes débuts dans ce métier. Je suis chez Michel Guérard, une grande figure de la nouvelle cuisine de l'époque. L'expression aurait été utilisée pour la première fois en 1973 dans la revue Gotemillo. Michel Guérard fait partie de ce que certains ont appelé la bande à Bocuse, Pierre et Jean Troisgros, Michel Guérard, Alain Senderens, Gaston Lenôtre, Paul Héberlin et quelques autres, une bande de copains bien plus qu'une école à l'époque. Et toute la bande voyage allègrement. Il existe une photo qui les montre en partance pour les États-Unis, au pied du Concorde, dans lequel ils s'apprêtent à embarquer. Littéralement la baguette sous le bras et à leurs pieds des malles dans lesquelles sont empilés tous les produits français qu'ils utiliseront lors de leur démonstration. Non seulement ces jeunes chefs bousculent les traditions dans leur pays, mais en plus, ils portent la bonne parole dans le monde entier. Le monde de l'époque est sensiblement plus grand que celui d'Escoffier, mais n'a pas encore atteint la dimension qu'on lui connaît aujourd'hui. Cuisiniers voyageurs, ils sont les héritiers de la tradition de la cuisine française. J'ajoute au passage qu'il ne s'agit pas que d'exporter. Certains d'entre eux reviennent du Japon avec quelques idées et s'inspirent volontiers. Par exemple, des magnifiques techniques de dressage, des assiettes typiquement japonaises, ou encore des cuissons très courtes, des légumes et du poisson, caractéristiques elles aussi de la cuisine japonaise. On entre donc dans une époque où la cuisine française n'est plus la seule au monde. C'est ici que se situe le grand défi de la cuisine française du XXIe siècle. Son rayonnement multiséculaire fait qu'elle est connue partout. En même temps, l'arrivée de nouveaux acteurs qui veulent se faire une place fait qu'elle est parfois mise en cause. La longue lignée des Carême, Escoffier, Bocuse a donné à la haute cuisine française une prééminence qui est restée longtemps indiscutée. Récemment, cette longue histoire a parfois été présentée par certains, paradoxalement, comme un handicap plutôt qu'un avantage. Il faudrait s'émanciper des normes, il faudrait faire du nouveau à tout prix. La gastronomie française deviendrait synonyme de manière de table complexe et compassée dont il faudrait s'affranchir. La prééminence serait devenue une insupportable révérence. Il faut regarder cette critique avec précaution. Elle a une part de vérité. La cuisine française a exporté un modèle très différent de la cuisine italienne ou de la cuisine asiatique. Un restaurant français à Londres, New York ou Tokyo est presque à coup sûr un restaurant chic et cher. Et le client, notamment américain, est rapidement intimidé par le nom des plats, l'ordonnancement du repas, le choix des vins, les manières de table. Tout ceci nourrit la réputation d'arrogance qui est généralement reprochée aux Français dans les pays anglo-saxons. Ce n'est pas valable que dans la cuisine, d'ailleurs. En tout cas, les années passant, la cuisine française s'est forgée une image de cuisine pour l'élite fortunée qui, au fil du temps, s'est retrouvée en décalage avec des façons de se nourrir plus décontractées. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Quand je voyais dans la presse anglo-saxonne, il y a quelques années, faire ses gros tweets sur la mort annoncée de la cuisine française et l'avènement de la cuisine espagnole, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Curieux hasard, c'est à peu près le moment où, aux États-Unis, les French fries étaient baptisés Freedom Fries. Qu'elle le veuille ou non, la cuisine a décidément partie liée avec la géopolitique. Bref, complètement ou partiellement fondée, la prééminence de la cuisine française est discutée. Pourtant, les faits sont là. La France est la première école de cuisine au monde. Pratiquement tous les cuisiniers de renom sur la scène mondiale sont passés pendant leur formation dans des cuisines françaises, que ce soit en France ou à l'étranger. Je parlais à l'instant du péruvien Gaston Acorio. Il a appris la cuisine en France. Je pourrais citer le très médiatique et très talentueux catalan Ferran Adrià. Il a appris la cuisine en France. Ou l'italien iconoclaste Massimo Bottura. Ou l'écossais Tom Kitchen. Ou le brésilien Alex Atala. Ou l'américain Dan Barber. Je pourrais continuer ainsi longtemps cette liste. Je constate personnellement cette attractivité dans mes établissements, où je compte en permanence dans le monde une quarantaine de nationalités différentes dans le personnel de mes restaurants, alors que je ne suis présent que dans moins de 10 pays. Cette situation n'est pas exceptionnelle. J'ai procédé récemment à un sondage parmi mes confrères. Ils font état de chiffres comparables. Tous les ans, les grands chefs français accueillent et forment dans leur cuisine des dizaines de cuisiniers étrangers. On pourrait ajouter que cette attractivité de la cuisine française ne se joue pas seulement à l'export. Beaucoup de cuisiniers étrangers viennent s'installer en France et y font une cuisine française remarquable. Un exemple, Kei Kobayashi, comme son nom le laisse deviner, ce jeune homme est japonais. Il est né à Nagano, dans une famille de cuisiniers. Tout jeune, il voit une émission de télévision sur la cuisine française et il ne pense plus qu'à une chose, c'est cette cuisine-là qu'il veut faire, qu'il veut apprendre. Pour cela, il vient en France et quelques années plus tard, il devient sous-chef de mon restaurant du Plaza Athénée à Paris. Aujourd'hui, il s'est installé à son compte du côté des Halles. Il y fait d'ailleurs une cuisine française magnifique. Tous ces cuisiniers qui viennent s'installer en France pour faire de la cuisine française contribuent eux aussi au rayonnement de notre patrimoine. Et ils constituent une très belle preuve de l'attractivité de notre cuisine. Première école de cuisine au monde, la cuisine française est aussi la référence indiscutée en termes d'organisation de travail. Comme je l'évoquais il y a un instant, tous les restaurants dans le monde ont adopté le système des brigades mis au point par Escoffier. Enfin et surtout, la cuisine française est une référence en matière technique. Elle dispose par exemple de la palette la plus large de modes de cuisson, grillés, sautés, rôtis, poêlés, mijotés, à l'étouffée, pochés, etc. Sans que cette liste ne soit limitative, je dirais à l'image de la cuisine chinoise, là où les autres traditions culinaires n'utilisent qu'un petit nombre de techniques. Elle a inventé aussi une gamme unique et très élaborée de sauces, bouillons, jus, fumées, marinades, émulsions. Elle maîtrise parfaitement la technique de la concentration des saveurs. Enfin, la cuisine française travaille une gamme très étendue de produits, de saveurs et de textures avec laquelle seule la cuisine asiatique peut rivaliser. Cette base technique possède une qualité essentielle, l'adaptabilité. Je citais tout à l'heure le nom du Brésilien Alex Atala. Alex fait un travail remarquable qui consiste aujourd'hui à redécouvrir les produits de son terroir, notamment de l'Amazonie, avec laquelle il a des liens affectifs forts. Mais il le dit lui-même quand il s'agit ensuite de les cuisiner dans son restaurant de San Paolo, il utilise les techniques françaises. Et il le fait parce que ce sont elles qui sont les plus à même à s'adapter à tous les produits et à faire une cuisine aux standards internationaux. D'une façon générale, dans tous les pays émergents sur la scène culinaire mondiale, utilisent des techniques françaises qui, appliquées aux produits et aux traditions culinaires locales, leur permettent d'inventer leur propre expression culinaire nationale. Je vous donnerai un autre exemple plus personnel. Il y a quelques mois, j'ai ouvert un restaurant à Doha, au Qatar. J'ai procédé selon mon habitude, c'est-à-dire que j'ai commencé par m'imprégner des traditions culinaires locales et à partir à la recherche des produits locaux. Ils sont certes pas nombreux, mais on les a trouvés. Parmi eux, j'ai ramené un chameau, en fait un chamelon, c'est-à-dire un jeune chameau. Inutile de vous dire que je n'avais jamais cuisiné le chameau de ma vie. Mais j'ai à ma disposition une palette de techniques, les techniques culinaires françaises. J'ai donc trouvé la solution. Il y a aujourd'hui à la carte du restaurant de Doha un chameau façon Rossini qui rencontre, je dois le dire, un franc succès. Pardon d'être chauvin, un instant, mais je pose la question. Quelle haute cuisine offre ainsi un corpus de techniques qui peuvent s'adapter aussi bien aux produits amazoniens qu'aux produits moyen-orientaux? De fait, ni la cuisine italienne, ni la cuisine asiatique, deux cuisines pour lesquelles j'ai par ailleurs infiniment de respect, d'affection, n'en sont malheureusement pas capables. Former et attirer les talents étrangers, fournir les bases de l'organisation et des techniques. Il n'y a pas une seule cuisine au monde qui peut afficher ce genre de résultats. Nous n'avons décidément pas besoin d'avoir de complexes. La cuisine française ne réussit pas si mal. Inutile de céder à la tentation nationale de l'autodénigrement. C'est un sport national en ce moment. Pour autant, faut-il nous reposer sur nos lauriers ? Évidemment, non. La cuisine est devenue une industrie où la concurrence est rude. Lorsqu'une grande chaîne hôtelière ou un grand acteur de l'industrie du loisir cherche un consultant pour créer un restaurant, il y aura toujours nécessairement un Français dans la consultation. Mais pas seulement. Lorsqu'un jeune veut suivre une formation en cuisine, il pensera toujours école française. Mais pas seulement, il peut aussi se tourner vers des écoles américaines ou suisses. Encore une fois, nous ne sommes plus seuls au monde. La cuisine française doit donc s'adapter à ce nouveau contexte. C'est pour favoriser cette mutation que j'ai réuni autour de moi une douzaine de confrères. Alain Dutournier, Gilles Goujon, Michel Guérard, Marc Héberlin, Régis Marcon, Thierry Marc, Gérald Passeda, Laurent Petit, Anne-Sophie Pic, Guy Savoie, Pierre Troigot, au sein du Collège culinaire de France. Paul Bocuse a accepté d'en prendre la présidence d'honneur et Joël Robuchon de co-animer cette association avec moi. Je tiens beaucoup à cette initiative car elle se donne comme premier objectif de jouer collectif. Un objectif essentiel pour faire progresser l'ensemble de la profession. Je ne vais pas développer ici notre programme d'action. Disons simplement qu'il s'agit de renforcer la présence de la cuisine française sur la scène internationale et d'accentuer nos efforts de transmission, de formation. Pour conclure, je dirai ma confiance dans la capacité de la cuisine française à garder sa place dans le monde. Bien sûr, elle ne s'imposera plus sur le mode de la domination exclusive, indiscutée et sans partage. Pour être franc, je ne le regrette pas, car ce genre d'attitude appartient à une époque révolue. En revanche, elle gardera toute sa place en adoptant une posture d'influence, une attitude plus respectueuse, plus moderne et en réalité plus féconde. Merci de votre attention.
Plusieurs de nos confrères souhaitent engager la discussion. Xavier Darcos.
Oui, d'abord, je voudrais remercier Alain Ducasse de son exposé. J'ai appris une magie supplémentaire de sa part, c'est d'arriver à rendre le chameau mangeable. Moi, j'en ai mangé une seule fois, c'était au Kenya, dans un restaurant qui s'appelle Carnivore. Ça m'a laissé un souvenir mitigé. Nous irons à Doha à voir si c'est meilleur là-bas. Rossini. D'autre part, alors, j'étais très intéressé par ce qu'il a dit sur Mistura, puisqu'en fait, c'est plusieurs dizaines de billets. C'est 385 000 billets qui ont été vendus à Mistura. C'est considérable pour visiter Mistura. Hein, c'est sur des chiffres qui sont pratiquement sans comparaison avec ce qu'on peut connaître dans des fêtes gastronomiques en France. Mais ma question est celle-ci, cher Alain. La cuisine, c'est évidemment tout ce qui a été dit, c'est-à-dire une qualité de traitement des produits, de repérage des traditions et des terroirs, de synthèse, de toutes sortes de formes de génie, en fait, qui sont à la fois l'élevage, l'art de vivre avec ses saisons, de marier des saveurs. Mais c'est aussi une industrie, une économie. Et j'étais frappé, alors que d'habitude, lorsque nous parlons dans des cercles plus intimes, tu te lâches beaucoup sur le sujet, que l'aspect, je dirais, économique interne à la France a été volontairement peut-être oublié, car la gastronomie, la cuisine, c'est aussi des services, des normes, une gestion du personnel extrêmement complexe lorsqu'on s'inscrit dans le droit du travail, tout simplement parce qu'il faut beaucoup de souplesse. Est-ce que je serais abusé de dire que, dans une certaine mesure, pour ce qui est du fonctionnement même des équipes qui travaillent autour des grands chefs, que la France donne des handicaps par rapport à des pays comparables ?
C'est-à-dire, dans la haute gastronomie en particulier, c'est l'utilisation de main-d'œuvre nombreuse et spécialisée, donc qui coûte cher, et c'est certainement le pays où les charges salariales avec l'Italie sont les plus importantes, ce qui est un léger handicap pour continuer à maîtriser la haute cuisine au même niveau que la haute couture. Et d'ailleurs, je dis souvent que la haute cuisine n'est pas assez chère parce qu'elle consomme de la main-d'œuvre nombreuse et des petites mains, des mains spécialisées. Et en cela, elle doit rester l'exception. Elle doit tirer vers le haut l'ensemble d'une industrie qu'on appelle l'industrie de la restauration, qui, je le rappelle, consomme une main-d'œuvre non délocalisable, parce que le steak au poivre, il est fait à Paris dans un des restaurants, et le chameau, il est fait à Doha. Il n'est pas fabriqué en Roumanie ou dans un pays où la main-d'œuvre serait moins chère. Donc je pense que nos gouvernants seraient bien intentionnés de regarder avec une plus grande attention l'impact économique que nous représentons et revendiquer que nous sommes une industrie non délocalisable et que finalement, peut-être qu'en 2025, nous allons à nouveau être des acteurs reconnus et qui méritent l'attention qu'ils ne l'auraient pas portée aujourd'hui. Je parle en ancien politique, cher Xavier.
Est-ce que je pourrais ajouter à la question de Xavier Darcos que finalement cet aspect modèle économique de la haute cuisine, est-ce que les questions se posent de façon très différente dans différents pays et comment ça se passe? Quels sont les pays finalement où vous avez le plus de facilité à ouvrir un restaurant de haute cuisine avec la combinaison qu'il faut un marché, il faut des gens, puis ensuite il faut des moyens et des...
Enfin, soyons clairs, la très haute gastronomie, elle existe dans l'Hexagone. Un peu à Londres, nous avons un restaurant 3 étoiles de Guide Michelin à Londres. Ça se passe très bien parce que la main-d'œuvre est un peu moins chère et les clients sont là, consommateurs de vin, amateurs de vin, ce qui fait que la prestation, c'est une très belle prestation. Mais la très haute gastronomie, elle existe essentiellement dans quelques villes dans le monde et essentiellement dans l'Hexagone. Je pense qu'il y a plus de restaurants de gastronomie dans l'Hexagone que dans l'ensemble du monde. On peut dire que si on considère qu'il y a 50 restaurants de très haute gastronomie en France, peut-être une centaine en Europe, il n'y en a pas davantage dans le reste du monde. Donc c'est un atout indiscutable. Par contre, que cette haute gastronomie participe à la visibilité et à la notoriété de l'ensemble de l'industrie qu'on appelle la restauration, la réponse est oui. C'est comme la haute couture et le prêt-à-porter, en fait. Pareil, c'est la fâche cassée de l'iceberg est infiniment plus importante que ce que l'on voit. Et c'est grâce à cette haute gastronomie que je pense qu'un certain nombre de touristes vont s'arrêter en France pour essayer de passer un moment délicieux dans tous les sens du terme, et en particulier en trouvant une proposition de table qui aille du simple bistrot ou de la modeste auberge à la haute gastronomie. Et en cela, ce que nous proposons dans la largeur de l'accès en termes d'addition et dans la diversité, et certainement unique au monde, peut-être avec les Italiens qui ont préservé leur cuisine de région, de pays, jusqu'à la haute gastronomie. Mais très sincèrement, on mange souvent mieux dans une trattoria en Italie qu'en haute gastronomie, même si cela fait partie du paysage gastronomique italien. Les Espagnols, bien qu'on en ait beaucoup parlé ces dernières années, ils n'ont pas réussi à imposer au-delà de leur pays leur empreinte, je ne dirais pas que c'est inversement proportionnel au tapage qu'ils ont fait, mais quand même, presque.
Alors comment se fait-il que nous n'ayons pas de manifestation un peu du style du salon de Lima dont vous parliez? C'est parce que bon, on est trop habitué, c'est quelque chose de normal.
Je réponse parce qu'on n'a pas le soutien des collectivités locales, des politiques qui considèrent que tout va bien dans le meilleur des mondes et que finalement on n'a pas beaucoup d'intérêt à s'occuper de cette industrie puisque finalement on considère certainement que les restaurateurs peuvent boire du champagne tous les jours donc on n'a pas besoin de s'occuper d'eux.
Voilà, la règle du normal. Ok, Jean-Robert Pitt.
Merci Monsieur le Président et merci d'avoir accepté qu'on considère dans cette académie que la gastronomie fait partie des sciences morales et politiques. J'espère qu'un jour nos confrères des Beaux-Arts reconnaîtront que la gastronomie et le bon vin font partie des Beaux-Arts, comme ils l'ont fait pour la couture, le cinéma, naguère, la mise en scène, etc. Donc j'espère qu'un jour ils éliront en leur sein, ça leur sera transmis, un cuisinier et un grand vigneron. Donc merci, cher Alain, d'avoir si bien parlé de ce bel art français qu'est la gastronomie. Je me pose plusieurs questions. D'abord, comment interpréter, parce qu'on a parlé de gastronomie plutôt solide, on n'a pas évoqué beaucoup les vins à part le champagne il y a un instant, comment interpréter cette espèce de pusillanimité de nos princes, voire terreur, vis-à-vis du vin, alors que des pays voisins comme l'Espagne
ou un peu plus lointain, comme l'Argentine, proclame haut et fort que le vin est une boisson de culture, de civilisation et leur boisson nationale. Nous, en France, on est à peu près au même stade que vers 1919, à la veille du vote des lois de prohibition aux États-Unis. Donc on est à la veille d'interdire la consommation du vin en France, parce que c'est une boisson, évidemment, qui comporte une part d'alcool et que, l'alcool étant dangereux, si on en consomme beaucoup, il y a des vrais risques. Mais ça rentre, me semble-t-il, dans ce principe de précaution. Pour éviter tout risque d'alcoolisation, on interdit le vin, alors qu'en fait, évidemment, l'alcoolisme en France n'est pas lié au vin. Mais comment est-ce que
Jean-Robert, tu interprètes ? Vous l'avez très bien écrit, puisque vous avez une grande attention de l'harmonie des mets et des vins. Il n'y a pas de grand repas sans des vins qui tombent juste en harmonie avec le plat que l'on est en train de consommer, ainsi que la hiérarchie. Et en cela, je dois avouer que la haute gastronomie française est certainement la plus performante en termes de juste harmonie, d'ordonnancement d'un repas, de la hiérarchie des mets, de la succession des mets. Le tempo merveilleux d'un grand dîner ou d'un grand déjeuner en France est unique. On n'arrive pas à le faire. Dans un autre pays, même pas à Londres, je n'ai pas ce niveau d'excellence et ni ce niveau de public, parce que sur une scène, encore faut-il qu'il y ait un public qui soit réceptif, qui soit capable d'apprécier, et en cela, la juste harmonie, la juste température des vins, l'ordonnancement, en font un atout pour la France exceptionnel. Alors bien sûr, cela coûte un certain prix, mais cela est le juste prix, c'est le prix de l'excellence, donc il faudrait... Là, on peut parler des relais médiatiques. Les relais médiatiques s'étonnent toujours du prix de la haute gastronomie, mais en fait, c'est le juste prix, puisque cela consomme des grands produits, une main-d'œuvre nombreuse, une cristallerie, des arts de la table raffinés. C'est en cela qu'on devrait être fier de nous supporter dans notre action d'acteur de la haute gastronomie, et non pas d'avoir un regard comme ça, méfiant de ce luxe presque
insolent.
Reproche, oui, insolent, de fréquenter nos tables. Voilà, je pense que ça fait partie d'un paysage, et il faut que ceux qui nous dirigent prennent cela comme un atout. Et les vins sont un complément indispensable de l'excellence d'un repas. Et en cela, je pense qu'il n'y a que les Français qui sont capable d'ameler au niveau l'harmonie qu'il y a entre les deux. Voilà, c'est un atout qui doit continuer. Mais au-delà de continuer, il doit faire l'effet d'une caisse de résonance dans l'Hexagone pour faire un effet européen et un effet mondial. Donc c'est à nous de remettre de taper aux portes des politiques pour arrêter ce complexe de consommer du vin alors qu'on consomme des alcools durs, et les alcools durs sont beaucoup plus néfastes que du vin avec des mets.
Pardon, Monsieur le Président, je n'ai pas tout à fait terminé, parce que nous sommes en dialogue. Alors, quid du vin à servir avec le chamelon Rossini, puisque au Qatar, le vin est interdit? C'est un vrai problème pour ceux... Guy Savoy ne veut pas y aller à cause de ça. Deux remarques sur le fait qu'il y aurait en France, en gros, le plus grand nombre de grands restaurants de haute cuisine par rapport à l'ensemble. Il y a la France et puis le reste de la planète, ça fait à peu près le même nombre. Je pense que le Japon a quand même, et tu le sais bien, a quand même un nombre de restaurants de cuisine japonaise, bien sûr, de haute qualité, de haute créativité, avec une attention aux produits. Comment ?
Je parlais de haute cuisine française.
D'accord. Non, parfait. Non, parce que je trouve que s'il y a un autre pays dans lequel la cuisine est portée au rang des beaux-arts, au point même qu'un de nos amis communs est pratiquement patrimoine vivant, enfin trésor national vivant au Japon, et c'est fort justifié, c'est vraiment le Japon. Alors, ma dernière
remarque... Les restaurants sont tout petits, Jean-Robert. Les restaurants sont tout petits, donc il faut en mettre beaucoup pour faire la capacité...
Oui, enfin, au Plaza, on ne tient pas non plus à 200.
Tout à fait. D'accord, mais entre 10 ou 20 et 50...
Puis trouver la langoustine palpitante à peine sortie de l'eau, c'est pas possible pour 200 personnes. Ma dernière remarque, et après je laisse la parole, Monsieur le Président, concerne le rayonnement. La question a été posée, pourquoi pas en France quelque chose comme Lima? Je voudrais dire que ce qui se prépare, et ce matin on a eu une très grande réunion pour aller un peu plus loin dans ce projet, c'est-à-dire la cité de la gastronomie en réseau, qui est parti de pas grand-chose et surtout pas soutenu par les princes qui nous gouvernent, va quand même peut-être révolutionner un peu les choses. Je peux dire, parce que c'est vraiment tout frais de ce matin, que ce que Dijon est en train de préparer est exceptionnel, avec une ardeur au travail et c'est ce projet de cité de la gastronomie à Dijon, qui est un des quatre éléments du réseau, est vraiment porté par toute la population locale, par les professionnels, bien entendu, et je pense va dans le très bon sens pour que la gastronomie fasse partie, non pas d'une forme des beaux-arts réservée à une élite, mais devienne très populaire. Voilà.
C'est une bonne initiative qui a réussi à aller dans quatre sites, et cela est bien. Je pense que Dijon et Paris en retireront la meilleure visibilité, je pense. Très bien. Ça va dans le bon sens.
Le Qatar, qu'est-ce qui...
Ça va dans le bon sens. Il n'y a pas de verre, mais justement, ça nous a obligés à réfléchir à des infusions. Et c'est étonnamment agréable, bien sûr, qu'on est toujours inquiet de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir boire avec le chameau Rossini. Mais finalement, là, on arrive très bien à s'en passer.
Alors, qu'est-ce qu'on boit ? Là, vous aiguisez notre curiosité. Qu'est-ce qu'on boit avec du chameau Rossini?
On a fait des infusions d'herbes et on a trouvé une petite balance d'amertume et d'acidité sur une sauce qui est plutôt... on va dire que la sauce Rossini, c'est plutôt lourd, avec de la truffe, etc. Donc on a fait une petite balance et ça se passe bien. On y a travaillé sans s'occuper de ce qu'on allait mettre de qu'est-ce qu'on allait mettre dedans. Est-ce que ça va avec ou ça va pas avec? Eh bien, ça va pas mal avec.
Très bien.
Et que je vois Xavier qui est dubitatif, ça vaut le voyage.
Oui, je propose une mission de l'Académie des sciences morales pour voir quand même comment les infusions spéciales... On dirait que c'est un peu comme la cuisine indienne végétarienne qui arrive à des choses extraordinaires.
Tout à fait. On a beaucoup d'influence, de toute façon. Dans cette zone géographique, on a beaucoup d'influence d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, bien sûr, du Liban et de l'Inde. Donc on a fait... on a capturé l'ensemble de ces influences et la nourriture est très, très intéressante. Au-delà de l'anecdote du chameau, c'est un grand bonheur de s'arrêter là-bas. Et ceux qui vont en Asie, quelques foodies, quelques amateurs de nourriture l'ont fait récemment. Et c'est une étape qui vaut la peine parce que l'architecture dans laquelle on se trouve est pour moi un des plus beaux monuments d'architecture designés par Pei. On est au bout de la péninsule arabique, on est dans un site absolument exceptionnel. Et l'environnement participe à l'excellence du moment que vous allez passer avant de reprendre votre route pour un peu plus loin en Asie. Vous pouvez faire étape et vous serez délicieusement accueillis. On va vous nourrir de manière délicieuse aussi.
Sans qu'on va organiser un voyage. François Terret.
Merci, Monsieur le Président. J'ai été passionné par cette, même après le déjeuner, par cette communication. Je voulais simplement tenir compte de cette idée que vous avez développée sur le développement de la concurrence internationale. Et de toute évidence, la question que peut se poser un juriste mal tourné est la suivante. Pourquoi, dans ce système de la concurrence, où évidemment les règles de la concurrence déloyale peuvent être utilisées entre les restaurateurs dans le monde de la restauration, comment se fait-il que les obtentions culinaires n'aient jamais fait l'objet d'une protection semblable à celle que l'on peut constater dans des droits étrangers? Et comment peut-on être protégé de cette manière? Alors vous me direz, le goût, c'est spécial, ça ne se protège pas. Mais pourquoi? Mais l'odeur se protège. On protège l'obtention végétale. On protège dans le droit des parfums. On protège dans d'autres domaines, mais pas lorsqu'il s'agit de la bouffe.
Oui. Parce que la moindre adaptation, c'est un dossier que doit mieux connaître Jean-Robert là-dessus, et pour y avoir travaillé. Moi, je n'ai pas travaillé dans ça.
Pardonnez-moi alors.
Je pense que Jean-Robert Pitt est mieux à même de répondre, parce que je crois... Non, Jean-Robert, tu n'as jamais travaillé...
Il y a Alain Saint-Reims qui avait essayé de faire déposer les recettes de cuisine, dont son canard apicius, de les faire breveter à l'IPI, et ça n'a pas marché. Juridiquement, c'était
juridiquement,
impossible. Mais parce que même les parfums, de toute façon, on peut toujours utiliser la même composition de parfum. Il ne faut pas l'appeler du même nom, mais on peut utiliser la même composition. On peut faire un Chanel 5 qui sera à peu près du Chanel 5 et l'appeler n'importe quoi. On peut l'appeler Terré 2... Et ça marchera, très bien.
Et puis, trois. Non, mais, pardon, je souhaite une réponse. Pardonnez-moi, pourquoi?
Parce que je pense que cela n'est pas protégeable, parce que les adaptations d'une recette... D'abord, les écrits existent depuis des siècles en France, donc c'est aussi de partager sa connaissance, et la moindre adaptation va permettre... au copieur ou à celui qui va s'inspirer d'une recette de le faire à sa manière. Donc, on avait abouti, moi j'ai suivi de loin, mais on avait abouti sur l'impossibilité de protéger. Donc je ne suis pas allé regarder très précisément, mais c'est vrai qu'Alain Saint-Reims y avait longtemps travaillé et ça n'a pas abouti. Il y avait une commission, il y avait Jacques Maximin aussi qui est très, 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 très agressif là-dessus. On pourrait le reprendre, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrive, monsieur le juriste.
Bon, d'accord. Merci beaucoup. Merci.
Mais on peut le reprendre.
Jean-Dula.
Merci, monsieur le président. L'une des caractéristiques de la France, c'est la multiplication des clubs et des académies gastronomiques. Cela va du Club des 100, représenté dans cette académie, jusqu'aux belles bacchantes, puisqu'il y a aussi une gastronomie féminine. Et j'étais ce week-end à Palerme avec les amis des bistrots. Alors, je voudrais savoir quelle est l'attitude d'un grand chef face à cette multiplication de sociétés, de clubs, d'académies qui s'affirment, se prétendent gastronomiques. Merci, monsieur le président.
Moi, j'adore parce que ça... J'adore parce que cela permet chaque fois de se dépasser, de faire en sorte que cette population fasse cobaye. Et puis c'est bien d'avoir des cobayes, d'essayer sur eux pour voir leur réaction, de savoir si la juste harmonie des mets et des vins que l'on propose, ça permet de se dépasser, de toujours rechercher de faire une proposition différente, plus fine, dans l'excellence du travail qu'on va apporter sur un produit, d'être en harmonie avec la saison, d'avoir un public d'amateurs, je dirais pas d'amateurs blasés, mais pour certains, oui. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de les surprendre quand on a un public de gens, pour l'essentiel des clubs, qui sont des gens qui viennent pour le plaisir, non pas parce qu'ils ont faim. Donc il s'agit de les séduire, et cela est toujours... un bon entraînement pour les équipes d'avoir à préparer pour les organisations et pour les clubs qui sont en fait des fan clubs des fanatiques de la nourriture, de l'harmonie avec les vins. Donc plus il y aura de clubs, plus ça défendra l'identité de l'excellence française. Donc nous sommes supporters.
Rémi Brang.
Merci monsieur le président. Et puis merci aux conférenciers pour ce exposé si appétissant. J'ai une question à la fois simple et fondamentale. Est-ce que l'on a une idée sur la vraie de préférence sur les raisons de la valorisation extrême que reçoivent dans notre pays les activités liées à la production, à la préparation et à la consommation de la nourriture? C'est une valorisation que l'étranger, toujours malveillant à notre égard, considérera comme excessive. Mais il y a quand même un fait intéressant, c'est que la cuisine, qui n'a pas été inventée en France, puisqu'on a déjà des recettes en Babylonie, qui a été formulée dans des livres de cuisine qui sont déjà mentionnés chez Platon et dont nous possédons au moins un avec Apicius. Comment se fait-il que ceci se soit porté à l'incandescence ou à l'efflorescence, si vous voulez une autre image, précisément en France, plutôt que dans d'autres pays? Suffit-il d'invoquer la qualité des produits du terroir ou faut-il chercher plus loin?
D'abord, je pense que la diversité de la proposition des produits, la diversité des cuisines régionales, la production viticole nombreuse et excellente favorise en tout cas la mise en œuvre de la haute gastronomie. Et je le disais tout à l'heure, cela participe à une saine compétition. Chaque cuisinier en France va développer, je dirais, son terroir mental sur des bases acquises. Et je dirais qu'il n'y a pas une cuisine française. Aujourd'hui, il y a des cuisines françaises qui sont l'aboutissement, finalement, de qui nous sommes, de notre ADN. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, avec une scène rare, unique, exceptionnelle, qu'il faut continuer à faire rayonner. Pour cela, le rayonnement, nous avons besoin des médias, et les médias, ils doivent être, je le disais tout à l'heure, dans l'Hexagone, et afin de continuer à porter haut et fort l'excellence de cet artisanat, parce qu'il s'agit d'un artisanat et non pas d'un métier artistique. On est dans un métier d'artisan. Pourquoi artisan ? Parce que finalement, le cuisinier, il est l'interprète de l'œuvre de la nature, c'est-à-dire respecter, tant que faire se peut, la saveur originelle de chaque ingrédient qui compose le plat sans le transformer, de l'assaisonner parfaitement, de le cuire justement, de le condimenter, d'avoir la sauce qui fait le lien avec la garniture, avec le vin en parfaite harmonie. Et en cela, je pense que cette recherche et cette recherche permanente de la perfection, il n'y a que nous dans cette aujourd'hui, dans cette recherche. Parce que quand on regarde les pays, les nouveaux pays dont je parlais tout à l'heure, comme j'ai à peine évoqué l'Espagne, je parlais des produits nordiques, mais finalement, pour l'instant, ils sont tous dans une ligne éditoriale semblable, alors que nous avons préservé, grâce à notre passé, une ligne éditoriale personnelle.
Comme tous mes confrères, j'ai toujours eu une grande admiration pour les grands chefs. Je me souviens, étant tout enfant, avoir vu dans mon village, c'était avant-guerre, le cousin d'une amie de ma grand-mère qui était Fernand Point. J'avais été tout à fait impressionné à l'époque par ce personnage. Plus tard, beaucoup plus tard, lorsque je dirigeais la faculté de philosophie de Lyon, Paul Bocuse a invité un soir dans son restaurant les responsables de l'université. J'avais trouvé que c'était une excellente initiative et mon impression native, si je puis dire, a été confirmée. On a évoqué tout à l'heure le rôle culturel de la gastronomie. Et c'est vrai, je parlais de l'esprit tout à l'heure. C'est un thème d'ailleurs d'une grande banalité. Le spiritueux a bien quelque chose à voir avec le spirituel. Et Nietzsche lui-même, le malade, Nietzsche, dans Humain trop humain, consacre un développement à l'esprit de vin. Donc, vous voyez, vous êtes ici chez vous. Ma question est la suivante. Vous avez évoqué divers objectifs qui peuvent stimuler la réflexion d'un grand chef actuellement qui travaille au rayonnement de la cuisine française dans le monde. Vous avez évoqué un certain nombre de mesures. J'aimerais savoir s'il y en a une qui vous préoccupe actuellement comme une mesure, une décision qui peut conditionner les autres, qui revêt une certaine urgence. Je voulais savoir quelle est la préoccupation fondamentale et la plus urgente qui vous anime actuellement.
La transmission du savoir, très clairement, de rien garder de ce que l'on sait, la transmission du savoir, parce qu'il n'y aura de rayonnement durable que si la transmission est active. Et cela demande du temps, de l'attention, d'avoir des jeunes, de les accompagner, de les faire grandir professionnellement, personnellement, afin qu'ils soient à leur tour les porte-parole de notre expertise, de notre connaissance. Et ce n'est que dans ces conditions que le rayonnement de la cuisine française continuera, ainsi que l'ombre portée économique que cela représente, que ce soit l'ombre portée des matériels, des arts de la table et tout ce qu'il y a autour, des vins que l'on va boire avec. C'est une façon d'exporter notre connaissance qui dépasse largement le seul repas ou le seul produit que l'on va traiter, puisqu'on va essayer d'exporter, quand on fait un soin, on va essayer d'exporter des arts de la table français, 85% de vins français, dont nous sommes des espèces de succursales d'excellence française, là où nous installons, bien sûr en regardant quels produits locaux nous allons trouver. Nous avons pour ambition de traiter ce que l'on trouve sur place. Par exemple, dans le Kansai autour d'Osaka, il y a une très belle campagne, il y a de très beaux poissons dans la baie d'Osaka, il y a des fermiers qui nous font de très belles volailles, qui nous font de très beaux fromages, donc nous sommes pour la défense d'une cuisine locale en termes de production, d'une cuisine française en termes de connaissances et d'une harmonie avec les vins français. Voilà, tout cela est une attention particulière. Mais notre première démarche, c'est de former les Japonais qui sont dans notre cuisine pour qu'ils soient des experts en cuisine française, afin que quand ils vont s'installer, quand ils vont nous quitter pour s'installer, ils aient envie d'ouvrir un restaurant français. Donc c'est bien ce qui m'aime. Ma première démarche, c'est la transmission de notre connaissance. Si nous voulons être influents, il faut continuer à porter la bonne parole et à la transmettre.
Là, il y a des défis, il y a des risques ou ça marche plutôt bien ?
Oui, il y a toujours des risques, puisque nous sommes dans un monde en compétition. Nous avons commencé à ouvrir des formats de cuisine française qui portent le label Alain Ducasse au Brésil, à Rio, à San Paolo, aux Philippines. Nous faisons des pâtissiers, parce que la pâtisserie... On parle de cuisine, mais la pâtisserie est certainement une des plus belles expertises françaises, et elle est encore plus unique que la cuisine française, parce que le modèle de la pâtisserie, la codification de la pâtisserie, c'est quasiment que français. Alors bien sûr, il y a les Viennois qui ont fait les pâtisseries, mais nous avons dans le monde le format dans un hôtel international, c'est l'organisation de la pâtisserie française plus que d'autres. Donc c'est pareil, il faut continuer à transmettre si nous voulons être influents. Mais je pense que c'est valable dans beaucoup de domaines.
Emmanuel Leroy Ladurie.
Est-ce qu'on peut parler en France d'une cuisine spécifiquement méridionale ?
Plus largement que méridionale, c'est plutôt méditerranéen, italo-méditerranéen. La cuisine de la Méditerranée occidentale n'est pas la même que la cuisine de la Méditerranée orientale. J'ai écrit un ouvrage de 1056 pages qui fait où il y a 750 recettes qui fait quasiment, on a extrait, on ne parle pas de Méditerranée orientale, on parle de Méditerranée occidentale, on est allé ramasser tout ce qui pouvait être intéressant aujourd'hui des cuisines de ce bassin méditerranéen, et j'y ai pris beaucoup de plaisir, je me suis beaucoup cultivé, on avait pris des historiens pour se faire dans chaque région, que ce soit l'Andalousie, la Catalogne, tout le bassin italien, mais c'est une grande cuisine. Alors, originellement, une cuisine pauvre, parce qu'une cuisine de terre et de mer, mais plutôt une cuisine souvent détenue par la femme, une cuisine familiale. Donc c'était très intéressant pour nous. C'est une encyclopédie qui s'appelle « La cuisine méditerranéenne », qui était mon troisième ouvrage dans les encyclopédies. Mais très belle cuisine.
Jean-Claude Trichet.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais soumettre à Alain Ducasse une réponse possible à la question philosophique qui était posée sur les raisons pour lesquelles nous avions un trait culturel unique au monde. Alors, on m'a une fois présenté la thèse suivante que je soumets à tous les historiens qui sont présents dans cette salle. Ce serait lié à la Révolution française. On aurait eu, au moment de la Révolution, une rencontre exceptionnel, unique au monde, entre l'offre, c'est-à-dire les cuisiniers et l'ensemble des brigades qui étaient dans les cuisines des princes, de tous les hôtels particuliers qui sont autour de nous, et la demande, c'est-à-dire des bourgeois prenant le pouvoir et ayant le souci de manger comme des princes. Donc on a eu cette rencontre qui a été assez brutale finalement, assez complète, puisqu'il s'agissait pas simplement d'un événement unique, mais qui se prolonge dans le temps, et aurait été alors inventée à la fois la grande cuisine qui sortait des hôtels particuliers des princes, le restaurant où on a une carte et où on peut commander ce qu'on veut, et bien entendu l'attrait alors des bourgeois qui prenaient le pouvoir pour les attributs des princes. Voilà une thèse que l'on peut soumettre.
Le restaurant est né après.
Et vous semblez la confirmer.
Oui, le restaurant est né de ça, vous avez raison. Jean-Robert, c'est ça.
Juste de me greffer, pardon, de reprendre la parole, mais Monsieur le Président, mais il est certain que la cuisine aristocratique de cour et de la haute aristocratie française, parisienne et versaillaise est descendue
dans la rue,
vers le peuple, grâce à la Révolution française, puisque les cuisiniers étaient au chômage, donc ils ont ouvert des restaurants. Lequel restaurant a été créé dès les années 1780, le premier restaurant. Mais surtout, je pense que la haute cuisine remonte à Louis XIV, qui a voulu créer un art, des arts à la française, parmi lesquels il y a l'architecture, la musique, la peinture, la sculpture, le théâtre, la langue et la cuisine, puisque il y a 70 livres de cuisine différents qui ont été publiés pendant la première partie du règne de Louis XIV, avec privilège du roi, et que c'est une cuisine qui est codifiée à ce moment-là, qui se distingue complètement de la cuisine médiévale et renaissante, qui, elle, a survécu en Allemagne, en Angleterre, en Italie, avec beaucoup de saveurs aigres douces, des épices encore abondantes, alors qu'en France, ça disparaît, et on passe au beurre, à la crème, à la poularde et au chapon, au veau de rivière bien blanc et bien gorgé à la crème et à la brioche. Et ça, ce sont les nourritures qui font prendre un peu d'embonpoint aux dames, mais qui distinguent la cuisine française des cuisines médiévales. Pardon.
Je sens que j'aurais dû prévoir que cette séance se prolonge par des dégustations.
Je reprends sur ce qu'a dit M. Trichet, M. Pitt. Effectivement, la cuisine française est une cuisine qui s'est développée de haut en bas. Hein. Et est-ce que ça ne nuit pas à la typicité de la cuisine française par rapport à la cuisine italienne, dont les plats italiens, c'est les pâtes ou la pizza, n'est-ce pas, qui est une cuisine populaire, ou à la cuisine chinoise, la cuisine japonaise, qui sont des cuisines typiques. La typicité de la cuisine française me paraît moins claire, et peut-être à cause de son origine savante.
Oui,
Et alors justement, on est passé de la cour à la bourgeoisie, et puis maintenant à des savants, comme dont vous êtes un membre éminent.
Non, mais il y a des cuisines régionales. La cuisine française, c'est quoi? C'est finalement, il y a le corpus de la haute cuisine, mais il y a les cuisines régionales. Et en cela, c'est une proposition très riche et de très diverse. La cuisine française contemporaine, c'est quoi? C'est une bonne réflexion, parce que il y a une telle personnalisation de la part des grands chefs de leur cuisine sur des bases d'un savoir-faire français, de l'ADN à la cuisine française. Il n'y a pas de commune mesure entre la cuisine de Marc Eberlin et de Michel Guérard, entre celle de Michel Guérard et de Bernard Pacot, entre celle de Paul Bocuse et la mienne, Maurice, aujourd'hui. Il n'y a pas de point commun si ce n'est une maîtrise d'un savoir-faire. Donc il faudrait recentrer, et je suis en train d'y réfléchir, je veux dire, c'est quoi la cuisine française aujourd'hui pour un étranger? Mais je crois qu'il faut coucher à nouveau une base pour s'y repérer. Il y a un tel talent, une telle production de recettes sur le goût français, mais dans la diversité, que ce soit des expressions des grands chefs et des cuisines régionales, que bientôt on va plus s'y retrouver. Donc il faudrait recentrer et dire, voilà, la cuisine française en 350 recettes, cela ressemble à ça, voilà, en prenant l'excellence des recettes de Michel Guérard, l'excellence des recettes des uns et des autres, ça serait ça le corpus de la cuisine française d'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose auquel on réfléchit. En fait, il y a trop de talent.
Pierre Delvolvé.
Oui, monsieur, et d'ailleurs, chers compatriotes, une question simple et très actuelle. La restauration est-elle affectée par la crise économique et financière?
C'est une question pour moi.
Oui.
peu parce que nous travaillons plus, nous travaillons mieux, nous sommes très attentionnés à la satisfaction du client, nous essayons d'anticiper ses attentes. Paris, d'abord pour Paris, hein, Paris a toujours et encore une forte attractivité. Xavier le sait bien, hein, enfin, on est quand même une des villes très visitées. Si les touristes qui viennent nous voir, qui arrivent à Charles de Gaulle ou ailleurs, s'ils restaient un peu plus longtemps, ça serait mieux. Si on les accueillait mieux, ça serait encore mieux. Mais on a quand même une belle attractivité. Puis il y a des nouvelles populations qui arrivent, même s'ils sont peu nombreux à voyager, ils sont là. Les Japonais ont toujours voyagé, ils sont de plus en plus nombreux. Les Chinois ont toujours voyagé, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, les Chinois commencent à voyager, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, tout cela compense. Mais dans cette crise, je crois que la crise, elle est d'abord en province, dans des villes où affectées par le chômage et les clients. Ils vont déserter les restaurants de gastronomie de proximité de manière inquiétante, oui, pour les mois à venir, et j'espère que ça va s'arrêter bientôt. Oui, il y a une vraie crise d'abord en province, peu à Paris pour ceux qui font bien leur métier avec attention, avec passion, qui s'attachent à écouter leurs clients et qui s'attachent à les satisfaire.
Yvon Gattaz.
Oui, je voudrais dire à Alain Ducasse deux choses. D'abord, une remarque et une question. Alors, la remarque, c'est concernant les mets royaux dont on a parlé tout à l'heure. À la vérité, la cuisine avait terrassé déjà les Romains. On ne dit pas beaucoup que dans la déchéance de l'Empire romain, qui a duré de 200 jusqu'à 476, comme tout le monde le sait, cette décadence a de nombreuses causes, et nos amis de l'Académie des inscriptions de lettres en ont répertorié quelques centaines. Alors je ne reviendrai pas sur le rôle de Commode, l'imbécile qui succédait à Marc Aurèle, je ne reviendrai pas sur l'édit Caracalla, qui a naturalisé tous les barbares, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les dirigeants de Rome se faisait servir dans des plats d'or et d'argent qui étaient chargés de plomb. Et la vérité, on s'est aperçu très longtemps après qu'ils étaient morts du saturnisme. Alors je n'accuse pas ce qu'il y avait dans le plat, mais le plat lui-même. Donc vous voyez que la nourriture a déjà terrassé quelques dirigeants politiques, cher Jean-Robert Pitt. Deuxièmement, la question. La question, c'est considérant ce que vous avez dit tout à l'heure sur la transmission des connaissances. Alors ça, c'est très important, et c'est un sujet qui me passionne. J'ai créé depuis 27 ans une fondation qui s'appelle Jeunesse et Entreprise, et nous nous occupons beaucoup de ce que nous appelons la transmission des connaissances acquises, la TCA. Nous supplions, le mot n'est pas trop fort, les seniors d'être atteints par la TCA et de bien vouloir transmettre les connaissances acquises. Car tous les seniors ont des connaissances acquises. Il est dramatique qu'ils les emportent dans leur tombe sans les transmettre. Et nous demandons à tous les seniors, quels qu'ils soient, cuisiniers ou ingénieurs, de transmettre des connaissances acquises. Alors pour ces jeunes, dont nous nous occupons beaucoup, nous avons constaté qu'il y avait une certaine réticence, vous le savez, cher Alain Ducasse, pour les métiers de bouche. Parce qu'on appelle plutôt les métiers de bouche, c'est le métier de boucher, de charcutier, qui n'aime pas beaucoup. En revanche, quand on leur pose la question « voulez-vous être cuisinier ?», ils répondent tous « oui ». Et nous sommes allés il y a quelques jours visiter des lycées de formation culinaire, le lycée Albert Lebin, que vous connaissez mieux que personne. Moi, j'ai été absolument surpris par la mobilisation de ces jeunes pour ce que vous appelez la grande cuisine, enfin la bonne cuisine, pour le service de table. Ils étaient tous impeccables, mobilisés, heureux de leur travail. Alors, on les a interrogés, un par un, et ils nous ont tous dit on est fanatiques de notre travail, notre rêve. Quel rêve avez-vous? Rentrer dans un grand restaurant 3 étoiles. Voilà ce qu'ils nous ont tous répondu. Voilà, au lycée Albert Demain, que vous connaissez, qui forme des cuisiniers. Donc, si vous voulez, les jeunes, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas attirés par les métiers de bouche. Certains les attirent beaucoup. Est-ce que c'est votre avis?
Oui, et c'est un très bel ascenseur social parce que nous avons, dans notre entreprise, la passion de faire grandir des jeunes collaborateurs jusqu'à être chef. Et formidable ascenseur social, c'est en ayant fait peu d'études, ils peuvent se retrouver à des postes à responsabilité, pour autant qu'ils aient pris le temps de l'apprentissage, qu'ils aient accepté de voyager de la France à l'étranger. C'est un métier à forte mobilité, Et mon chef actuel du Maurice est de bon exemple. C'est un jeune garçon que j'ai eu quand il avait 18 ans, après avoir terminé son apprentissage de cuisine. Il est aujourd'hui le chef du Maurice. Bon, on dit 16 ans plus tard, il a 34 ou 30. Il vient juste d'avoir 35 ans. Il a commencé avec moi. Il a une belle position. On lui a donné. Il a pris le temps de grandir personnellement, professionnellement. Regardez, il s'est cultivé, il a voyagé pendant 2 ans avec moi, il n'avait pas de cuisine, donc il s'est nourri. Il s'est nourri intellectuellement, il s'est nourri de ce qu'il a découvert autour du monde, il a fait une belle synthèse, et la route est tracée pour lui. Donc c'est ça mon défi quotidien, c'est la transmission du savoir, et de faire en sorte que les collaborateurs de demain soient les meilleurs possibles, afin que je puisse partir sereinement, me reposer.
Marianne Basile-Bruguère.
C'est la clé, c'est ça. Pardon, mais d'intervenir avec des propos de cuisinière parmi ce dialogue de messieurs sur la cuisine. Mais je voudrais introduire quelques relativités dans les propos qui ont été tenus. Cela se rapporte à un dialogue un peu antérieur à ce qui vient de se passer. L'originalité, l'inventivité, la créativité de la cuisine française ne doit quand même pas être exagérée. Elle date jamais que du XVIIe siècle. Bon, on peut en faire remonter les origines aux Romains et aux sauces particulières qu'ils avaient inventées pour assaisonner le poisson qui traversait la Méditerranée. Mais enfin, dans la cuisine chinoise, on a des traités de gastronomie qui sont bien antérieurs. Et ce sur quoi on a insisté, sur le fait que la bonne cuisine venait d'en haut vers le bas. En Chine, il y avait une cuisine de cour, au Japon également. Mais ce qui a fait l'excellente cuisine chinoise et l'excellente cuisine japonaise, c'est le mélange entre la cuisine de cour, la cuisine locale et l'extraordinaire diversité qui existait, et les croisements. Et de même, aujourd'hui, il se trouve un renouvellement complet de l'art culinaire chinois, qui ne ressemble pas au nôtre, enfin ce qui s'est produit chez nous sous l'impulsion notamment de notre orateur et d'autres, mais qui est absolument prodigieux. Il y a des plats tout à fait de base, traditionnels, excellents d'ailleurs, des plats populaires qu'on ne peut plus manger à Pékin. Plus personne ne sait les faire. Moi, je peux vous les faire chez moi parce que je connais les recettes. Mais on ne les trouve plus dans la cuisine de Pékin. Et en revanche, on en est venu à faire des choses extraordinairement sophistiquées, compliquées, que personnellement, moi, je n'aime pas du tout. Il y a des Chinois qui aiment ça. C'est le goût de la nouvelle classe dirigeante chinoise. Mais je ne sais pas si on ne reviendra pas à ce que nous appelons la cuisine bourgeoise ou la cuisine des familles. Je pense qu'il faut regarder tous ces phénomènes dans une vision globale et aussi dans la manière dont elles se sont inscrites dans chacune des civilisations. Mais il n'y a rien de spécifique à la cuisine française, à mon avis.
D'accord, mais la richesse de la cuisine chinoise, on la connaît, elle est certainement la plus large.
Je ne sais pas si elle est plus riche que nous ou pas plus riche que nous.
En tout cas, dans les deux cuisines que je considère les plus riches, c'est la cuisine chinoise et la cuisine française. Je pense qu'on est là dans deux raretés, dans deux cas extrêmement particuliers de la diversité des cuisines régionales.
Vous allez me dire si votre avis, c'est que la spécificité ou l'intérêt de ces cuisines vient des mêmes phénomènes du mélange entre la cour, les femmes qui font la cuisine dans l'arrière-cuisine, qui inventent avec les produits du marché, et de la diversité des régions.
Mais oui, c'est ça. Alors, ce qui est regrettable, c'est qu'il y ait une rupture dans la transmission, c'est ce que vous êtes en train de dire. Comment on va faire pour retrouver, puisque vous êtes une éminente sinologue, comment on va faire pour retrouver l'origine des cuisines régionales dans leur tradition la plus rurale, je dirais. Comment on va faire? C'est ça qui... Parce que je vais m'installer à Pékin, donc j'aimerais bien avoir une compréhension de qu'est-ce qui se passait de manière originelle dans les régions en Chine pour m'en servir, pour comprendre. J'ai besoin de comprendre. Donc c'est un travail que je vais commencer très bientôt.
Mais écoutez, si
Bon, il m'est arrivé de débarquer dans des petites localités chinoises de la gare, comme ça, puis d'avoir faim et d'avoir à manger.
Cuisine populaire.
Et d'aller dans un tripot, vraiment, un truc assez sale.
Oui, très sale.
Et dire aux gens, je voudrais manger ce qui est vraiment votre cuisine locale. Et ils étaient tout heureux. Et si je demandais de boire un petit verre d'alcool local, ils étaient encore plus heureux.
Ça désinfecte.
Et à ce moment-là, on sentait la création qui venait du potager.
C'est ça qu'il faut que j'aille capturer. Il faut que j'aille capturer ça. Non, mais je suis sérieux. Donc ça veut dire qu'il y a une rupture. Non, mais d'accord, mais dans la connaissance, il y a dû y avoir une rupture. Dans la transmission.
Elle est récente, la rupture. Hein.
D'accord.
Elle est récente, elle vient du supermarché,
d'accord,
qui a coupé l'alimentation normale, enfin, l'approvisionnement normal. Mais c'est très récent, c'est beaucoup plus récent que chez nous. Et avec un potager, on retrouve.
Donc il n'est pas trop tard, ça me rassure. Non, c'est vrai. Moi, je vais me cultiver du goût chinois, je ne vais pas y aller comme ça.
Ah ouais, moi, je voudrais vous poser une question sur la technologie, parce que dans la plupart des activités, la technologie façonne l'évolution de ces activités.
Ouais.
Et dans la cuisine, il y a une espèce de non-dit consistant à dire que c'est bien mieux sans la technologie et que la technologie ne fait que la gâter. Alors, il y a trois aspects à la technologie. Il y a les modes de cuisson, vous en avez un petit peu parlé, mais j'aimerais que vous nous en reparliez un peu. Il y a les produits. Et c'est vrai qu'à un moment, mon entreprise, bizarrement, s'était éloignée du ciment pour faire des semences de produits, des semences de légumes. Et nous faisions des tomates, des semences de tomates, dont le goût n'était absolument pas un critère de sélection. La shelf life, c'est-à-dire la durée de vie sur les étagères était
la seule.
Mais après tout, le génie génétique, ça peut aussi être fait pour avoir des goûts nouveaux, etc. Donc, sur les produits, et puis ensuite, sur le goût, est-ce que la science apprend des choses sur le goût ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste indéfinissable? Enfin, est-ce que pour un grand cuisinier comme vous, il y a des scientifiques qui peuvent vous dire des choses intéressantes? Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui...
Ce qui m'intéresse, c'est de goûter.
Sur le goût.
Pas ce qu'on me raconte.
Sans parler de la cuisine moléculaire ou ce genre de trucs.
Oui, ça, c'est une évolution. Alors, je reprends dans l'ordre. Le cuisinier ne doit pas être... Il doit pas être au service de la technologie. C'est-à-dire, quand il appuie sur des boutons pour cuire à 63 degrés, bon, tout ça est bien. En fait, c'est une aide à l'irrégularité de l'humain. Mais en aucun cas, le cuisinier doit perdre le manche. C'est-à-dire, quand il est... j'ai connu ces périodes-là. Hein. Je vais pas dire chez qui, mais on appuyait sur des boutons, puis finalement, on s'apercevait que tout était la même chose, et donc on a réagi. Et il faut pas perdre le manche. Il faut utiliser les outils comme des alliés et non pas comme les maîtres à penser à notre place. C'est le cuisinier qui va rester acteur. Ensuite, pour les produits, moi je dis toujours, moi je veux goûter, je veux. Bien sûr, si c'est pas un organisme génétiquement modifié, cela me va mieux. Si c'est bio, cela me va mieux. Mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est le goût. C'est la proximité du sourcing. Quel goût ça a et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec là où je suis, dans quel prix, dans quel environnement de décor, parce que tout cela est intimement lié. Le plaisir d'un bon dîner ou d'un bon déjeuner, c'est aussi l'environnement dans lequel vous le consommez, dans quel verre vous allez boire, ou dans un verre ballon, si c'est un vin, si c'est dans un lieu qui représente, qui va bien avec, sinon dans un verre, dans un magnifique verre, si c'est dans un lieu un peu plus élégant. C'est tout cela participe à la fête du goût, mais en fait je veux goûter, d'où que cela vienne. Après, un organisme modifié ou pas, c'est mon goût qui décide. Seul mon goût décide. Je n'ai pas, je ne suis pas en train de dire que j'ai le goût universel, mais en tout cas, si vous allez manger à un restaurant, vous allez manger ce que j'ai décidé que vous allez manger. Si ça vous plaît, c'est bien. Si ça ne vous plaît pas, c'est tant pis.
Mais juste une dernière remarque à propos de ce que disait tout à l'heure M. Gattaz. Au fond, il me semble, mais peut-être me trompais-je, qu'il n'y a pas beaucoup de catégories, je dirais, de professionnels qui permettent des carrières comme le monde de la cuisine et de la gastronomie. Lorsqu'on regarde la carrière des très grands chefs, y compris la tienne d'ailleurs, ce sont des carrières qui sont des ascensions absolument extraordinaires, qui sont parties d'une cuisine et qui sont arrivées à être des capitaines d'industrie internationaux mondiaux, comme toi, mais pas seulement toi. Et surtout lorsqu'on regarde les jeunes qui passent par les écoles de cuisine, par Ferrandi ou par les lycées hôteliers, etc., ils font tous de belles carrières. En tous les cas, ils sont tous passionnés par leur métier et finalement, c'est une discipline dans laquelle... Mais... Il y a vraiment...
Comme un bon début, c'est quand même rigueur, discipline, exigeant d'abord.
C'est ça ma question. Pourquoi est-ce que... Parce que c'est vraiment spécifique. Je ne crois pas qu'on puisse en citer un autre exemple dans aucune profession.
D'abord, dans l'apprentissage de notre métier, dès un niveau de qualité acceptable, c'est rigueur, discipline, exigence. Et puis finalement... C'est un bon atout dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle d'abord, mais c'est d'abord ça. Donc si vous avez la chance, si un jeune a la chance de venir dans une bonne maison où le chef aura l'ambition de transmettre sa connaissance, il a de fortes chances de faire une jolie carrière parce qu'il va être éduqué. Avant le savoir-faire, on va lui apporter un savoir-être, hein, ensuite le savoir-faire, dont cela permet de faire de belles carrières. Et une des très très belles carrières, c'est qui n'est pas tout à fait dans le métier, c'est Plassard a fait l'école hôtelière de Lausanne et il dirige aujourd'hui Carrefour. Et je trouve que c'est l'école hôtelière de Lausanne, c'est bien, c'est fait pour faire des managers. Vous avez fait un peu de restauration, un peu d'hôtellerie. Ouais, je trouve que c'est une fabuleuse carrière. Voilà, et c'est vrai que j'ai croisé au cours de ma carrière des gens qui venaient comme apprentis et qui se retrouvent aujourd'hui à la tête d'une industrie. C'est bien de le souligner, Xavier. C'est important, c'est un bel ascenseur social, cette profession.